L'écrivain français Boris Schreiber, d'origine juive russe et que j'ai connu grâce à une amie commune, je l'ai longuement interrogé chez lui, boulevard Raspail, le 5 avril 2001, en particulier sur le livre puissant, volumineux, picaresque qui lui a valu le prix Renaudot en 1996, un silence d'environ une demi-heure, ainsi que sur d'autres ouvrages à tonalité autobiographique comme Le lait de la nuit et Le tournesol déchiré.
Ma première question, elle est sur l'usage de la mémoire. On est évidemment impressionné dans tout cet ensemble autobiographique par la précision. Alors, comment avez-vous fait? Avez-vous beaucoup de traces écrites? Quelle est la part de reconstitution? J'imagine que ton petit garçon derrière le Panthéon parle à une petite fille de son âge de 8 ans, vous reconstituez là un dialogue, vous reconstituez la couleur de sa robe, j'imagine. Alors, comment procédez-vous?
Mon passé n'a commencé, si j'ose dire, à me tracasser que depuis la mort de mes parents. Donc, je ne me sens. Peut-être je ne me sentais pas en droit de dire certaines choses tant qu'ils étaient vivants, si vous voulez. Et quand ils ont disparu, j'ai certainement éprouvé le besoin de reconstituer tout ce tissu, finalement, et de ma vie et de la leur. Parce que je parle tout le temps de mes parents. Et alors, je me suis rendu compte que c'était complètement présent dans ma mémoire, que rien n'avait sombré. Alors bien sûr, comme vous dites, il y a reconstitution également. Les conversations avec Marthe, la couleur de sa robe, bien sûr que c'est reconstitué, mais c'est reconstitué, si vous voulez, comme dans l'ambiance qui était celle que j'avais vécue. C'est absolument ça. Quelquefois, vous savez, par exemple, là je fais une parenthèse, Molière allait souvent chez le barbier, les coiffeurs de l'époque, et il disait il entendait des tas de conversations, c'est l'endroit où les gens se confient, et il disait que au retour, pour reconstituer ce qu'il entendait, il le reconstituait justement. Ce n'était pas nécessaire de transposer exactement ce que. Eh bien là aussi, là, j'ai transposé, mais cette transposition, elle est complètement dans l'ambiance du vécu. Peut-être quelquefois même plus que si j'avais par un moyen quelconque, miraculeux, pu reconstituer exactement ce que je disais à 8 ans, ça aurait peut-être sonné moins vrai, parce que quelquefois le vrai sur le moment donne une ambiance, mais 50 ans après il n'y en a plus. Alors donc il faut reconstituer pour qu'aujourd'hui encore ce soit vrai. Alors d'où le mot de reconstitution, comme vous dites, et non pas de transposition.
Mais vous m'aviez dit au téléphone et dans le gros volume, vous parlez de votre journal d'ailleurs.
Oui.
Est-ce que ce journal contenait des essais poétiques, des réflexions,
oui.
Ou est-ce qu'il contenait une description au jour le jour, ce qu'on appelle un espèce de journal intime, genre Julien Gris?
Les deux.
Ça, les deux.
Oui.
Vous avez utilisé ça?
Non.
Non. Donc le fameux diary, si vous comprenez en anglais, diary, on l'utilise pas.
Non. Juste une fois, pour le gros roman, donc Un silence environ une demi-heure,
oui.
Pour vérifier la date du débarquement. C'est la seule fois.
Dans le midi.
Oui. J'étais à Marseille à l'époque.
Il y a aussi dans cette mémoire, on le voit dans les innombrables entretiens que vous avez avec votre mère, qui est un véritable rituel de l'après-midi de Ponceau.
Oui.
À l'époque, vous notiez.
Rien du tout.
Rien du tout.
Mon journal, je le tiens toujours. Ah oui, je l'ai commencé à l'âge de 14 ans, 13, 14 ans. Je ne l'ai jamais interrompu. Mais je ne notais rien, y compris aujourd'hui, par exemple. Qu'est-ce que je mets? Je mets des petites choses qui me tracassent, ou quelques idées. Mais transcrire à proprement parler, jamais.
Donc, parce qu'on a une double lecture dans le chronosol déchiré, il y a même une triple lecture. Il y a l'écrivain maintenant, il y a un certain nombre de choses qu'il a vécues, et puis il y a le passé de sa mère qu'il a, par définition, pas vécu.
Exactement.
Et tout ce récit-là, il est de mémoire.
Il est de
la mémoire de la mémoire, si on veut dire. La
oui.
La mémoire de l'autre mère.
C'est ça.
Rien n'a été écrit sur le moment.
Rien. Rien. Mais il y a des choses comme ça, vous comprenez. D'ailleurs, vous, dans votre livre, vous parlez de certaines rencontres. Vous parlez de ça. Et c'est impressionnant, même. Mais pour vous dire que certaines choses restent tellement que, enfin, pour moi, on a envie de s'en défaire quelquefois, parce que ça vous pèse. Par exemple, dans Le lait de la nuit, le voyage dans le train avec ma mère pour aller à Riga, d'Anvers à Riga. Je n'ai jamais pu l'oublier, vous comprenez. Il me reste là, dans la gorge. Alors j'ai essayé à travers le temps, quand j'avais 14 ans, 16 ans, d'en faire un récit, donc indépendant de tout, genre rédaction de classe, si vous voulez. Mais je n'ai jamais réussi vraiment à me rendre dans tout cet étranglement, dans toute cette émotion. Je n'ai pas réussi. Et pourtant, une fois, une de ces versions donc, que j'avais écrites sur ce voyage, je l'avais montrée à André Gide. Et il l'a trouvé fort, il l'a trouvé très fort, lui. Mais moi, ça ne me satisfaisait pas. Et c'est pour ça que...
Vous avez risqué votre vertu, là.
Comment? Vous avez lu après dans le silence, oui, oui. Ça, c'est autre chose. Mais, et dans Le lait de la nuit, je crois avoir enfin réussi, n'est-ce pas, à transmettre en quelque sorte cette émotion, enfin, ce... Comme s'il avait fallu que je me retrouve seul pour pouvoir en parler. C'est drôle.
Une autre question qui concerne un silence d'environ une demi-heure.
Oui.
J'ai été frappé par, je vais utiliser un mot un peu pédant, la temporalité. C'est-à-dire que on suit une chronologie, puisqu'on va de l'avant-guerre à la fin de la guerre, mais on ne sait pas, dans le fond, quand on passe d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre. Il y a une espèce de fluidité. Quel est votre secret, là?
Écoutez, alors là, je vous dis, je ne sais pas.
Parce qu'on peut faire un récit à dire, et le lendemain, il partit à la montagne. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est ça.
Et là, non, ça s'enchaîne. C'est extraordinaire. Il y a juste de temps en temps un repère. Mussolini est tombé, les Allemands, ça va mal, etc. Mais c'est tout. Et en même temps, le temps... Alors,
oui.
Comment vous avez fait?
Oh, ben
sur 1800 pages de poche, 200 pages de poche, même guerre épaisse.
Oui, mais écoutez, je dois vous avouer, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de travail pour ce livre, parce que l'écrire, le relire, le corriger, il y a eu beaucoup de corrections. Ce n'est pas une chose qui a été faite comme ça, sans effort et simplement. Alors peut-être que, grâce à la relecture et aux corrections, j'ai pu gommer ce qui était cousu de fil blanc, vous comprenez. J'ai pu enlever ces fils pour que ça tienne ensemble. Mais le secret, je vous avoue que je ne le connais pas. C'est peut-être ma manière d'écrire et de me corriger qui a donné ce résultat.
Alors, maintenant, sur le fond, dans un silence d'environ une demi-heure, ce qu'on sent monter quand même, progressivement, on ne comprend pas tout de suite, on le comprend mieux quand vous entrez à l'organisation d'hôtes, etc. Dans le fond, est-ce qu'il y a une volonté de rédemption, je vais utiliser un terme chrétien, là, est-ce qu'il y a une volonté de rédemption dans ce livre? Dans le fond, je n'ai pas été manouchiant, je n'ai pas fait la résistance, j'étais dans les jupes de papa-maman, en tout cas de maman. En plus de ça, je me suis fait payer par les Allemands, mon papa aussi. On voit monter ça comme ça, on se dit, mais c'est...
Mais non, il n'y a pas de volonté de rédemption. Aussi scandaleux que ça puisse paraître. Il n'y en a pas. Parce que j'estime que chacun a le droit de... Oui, oh, mais bon, chacun a le droit de sauver sa peau, pourvu qu'il ne touche pas la peau des autres. Attention. La vie humaine, c'est quelque chose de sacré. Mais du moins qu'on arrive. Pourquoi, comme disait ma mère, pourquoi se présenter de soi-même au bourreau, qui nous trouve d'abord? Pourquoi y aller de soi-même volontairement? Non, qui nous trouve? Et puis, par exemple, je pense à ce que la mère de ma mère, ma grand-mère, disait. Elle disait à ma mère en parlant de moi, Dieu l'a regardé plus tard, enfin, je l'ai cru, si Dieu m'a regardé, ben, il faut que je me sauve, il faut même qu'il me sauve, mais toi le ciel t'aidera, donc il faut que je me préserve. Et ma mère a exigé ça également de mon père, parce que lui était un peu réticent, mais après, bon, il a été d'accord. Et puis, écoutez, même plus tard, toujours, d'ailleurs, je crois, oui, j'en parle dans le silence. Vers la fin, les Allemands étaient déjà battus, j'avais déjà quitté Marseille, j'étais à côté d'Aix-en-Provence, à Meringue, pour les wagons de bois qu'on déchargeait.
Il y a les Asiatiques,
là. Où il y a, exactement. Et quand j'ai dit à un jeune Français qu'il faisait le transport de ces troncs d'arbres, il était bien, on était devenus amis, et lui était en même temps dans la résistance. Et quand je lui ai dit, je voudrais faire quelque chose, il dit, non, 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 tu bouges pas, on aura trop besoin de toi plus tard. Alors donc, de différents côtés, finalement, ça me donnait raison d'avoir voulu être épargné. Comprenez? Quant au fait dont vous me parlez, c'est-à-dire rédemption. Non. Non, parce que je trouve normal. Évidemment, comme on dirait, je ne suis pas, entre guillemets, politiquement correct. Les principes, les grands principes, les idéaux, les mots d'ordre, les slogans, tout ça, ça m'est totalement étranger. Totalement.
Une autre chose qui est frappante dans tous les livres que j'ai lus, il y a une lucidité et une honnêteté dans votre démarche, presque, à certains moments, presque amère, oui, presque rageuse, qui est impressionnant, parce que personne ne vous oblige de dire.
C'est vrai, oui.
Presque, jusqu'au masochisme. C'est à la fois très impressionnant et terrible.
C'était comme ça, vous savez. C'était surtout comme ça quand je l'ai écrit, le livre, parce que sur le moment, là aussi, si vous voulez, comme vous le dites, il y a une certaine recomposition, parce que sur le moment, je ne sentais pas tellement ces choses. Mais je me suis rendu compte, au moment où j'écrivais le livre, que c'était bel et bien comme ça que je le vivais, mais à un niveau peut-être plus profond, et qui n'est sorti que 50 ans après. Je ne me suis jamais fait d'illusion sur ma vie. Sur moi-même, oui, peut-être. Et je continue peut-être à m'en faire. Sur ce que je vaux, moi, mais sur ce que vaut ma vie, là, je ne me fais pas d'illusions. Je n'éprouve pas le besoin, en tout cas, de m'en faire. Alors que pour ce qui me concerne en intérieur, j'ai peut-être besoin de croire que je suis. Bref. Bon. Mais ça, c'est pour le noyau de mon être. Mais pour la vie de mon être, extérieur ou pas, alors là, je me crois tout permis. Non pas que ça me fasse pas mal, quelquefois, de faire du mal. Ça me fait du mal. Et quand je n'ai jamais, par exemple, chaque fois que j'ai pu aider, que ce soit intérieurement, moralement, toujours je l'ai fait. Mais ça, il n'empêche que je me crois tout permis. C'est comme quand le précepteur de Louis XV disait, oh, il était tout jeune, tout enfant, sire, tous ces gens qui passent là, vers ça, ils sont tous à vous. C'est tous vous. Eh bien, moi, je me sens comme quelqu'un qui n'aurait de compte à rendre à personne, si vous voulez. Ça m'ennuie, d'ailleurs. Je crois que ça m'ennuie. Enfin, je ne sais pas. Ça m'ennuie peut-être de ma carrière littéraire. Si je veux utiliser ce mot.
Justement, ça.
Oui, oui.
Là, une question d'enfant à laquelle vous avez déjà répondu. Il y avait une certaine culpabilité à révéler des secrets avant la mort des parents, qu'il n'aurait pas voulu. Mais c'était assez naturel, ça, dans le fond.
Oui.
À reprise, je pense que vous avez...
Absolument.
Vous ne pouviez pas écrire certaines choses.
Non.
Alors, dans la structure littéraire, parce que toute cette histoire qui appelle le plus grand respect ne serait rien si ce n'était pas devenu une œuvre littéraire magnifique, enfin que moi je lis avec
ça me fait
voracité.
Plaisir.
Mais il y a un parti pris de gros plans sur l'histoire, comme Fabrice Del Dongo à la bataille de je ne sais plus quoi dans Stendhal, c'est-à-dire
oui.
De Waterloo. D'ailleurs, vous dites dans l'énorme roman futur, l'infime et l'essentiel seront également mêlés.
Oui.
Il y a un parti pris de refuser tout tableau historique, toute reconstitution. Nous ne voyons les choses qu'à travers
Bien
les personnages.
Bien sûr. Ah oui. Et même à travers un personnage, c'est-à-dire le héros. Quoi.
Mais j'entends, quand on parle de la révolution bolchevique, c'est à travers la mâchoire de la jeune fille qui est de travers,
c'est
travers
vrai.
Le bois qui manque, les chiottes qui
oui.
sentent, etc.
Oui.
On ne voit pas la prise du palais d'hiver, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, mais on ne voit pas.
Non.
Donc c'est une volonté... est-ce que c'est venu comme ça, ou en vous mettant à votre table, vous avez dit c'est comme ça que je vais faire?
Non, c'est venu comme ça.
Pour une fois, les rappels historiques ne sont là que juste ponctuellement dans la structure des livres.
Oui. Dans la mesure où ceux qui m'en parlent l'ont vécu. Par exemple, peut-être que si ma mère avait vu la prise du palais de l'Elle, mais elle ne m'a parlé que de ce qu'elle a vécu, elle. Donc c'est une révolution vue par le petit. J'ose pas dire par le petit côté, mais enfin...
Ce que vous vivez aussi, là, vous voyez l'arrivée de De Gaulle à Toulon, donc ça...
C'est ça. C'est ça, oui.
Dans la mesure où les personnages l'ont vécu,
oui. Oui, uniquement.
Alors, là, j'aimerais encore qu'on reste au niveau littéraire. Il y a un endroit dans le livre « Silence d'environ une demi-heure », une profession de foi stylistique. Vous dites ceci, « Cette littérature posée qui nous écœure, comme son contraire, la folie érigée en système. Boris et moi voulons, voudrons, une littérature issue violemment du verbe, une littérature sortie du verbe par le forceps, indésirable. » Alors on voit, il me semble, l'application de ce style se confirmer dans ces romans, dans ces livres autobiographiques, le premier étant classique de structure, et après il y a une espèce de compression avec des phrases, beaucoup de phrases sans verbe par exemple, ce qui est assez habile. C'était frappé parce que c'est difficile à faire, on écrit un petit peu. Parlez-moi du style de l'acte littéraire, sortant du continu et
de l'acte littéraire.
Votre conception de la littérature, elle est dans cette phrase quand même.
Oui. Si vous voulez, pour moi, ce qui compte, c'est la plus grande intensité possible. Et pour ça, tout est bon, à mes yeux.
Tout est bon. Y compris les néologismes.
Y compris les néologismes, les erreurs, ou même des mots que j'invente. Pourvu que ce soit fort, pourvu que ça pénètre dans la sensibilité d'autrui. C'est ça qui compte pour moi. La pureté, le style impeccable, tout ça, pour moi, c'est zéro. L'intensité, quand je parle de forceps, j'avais oublié ça, mais c'est exactement ce que je pense. Parce que finalement, moi, je crois qu'en écrivant de cette manière, je le dis maintenant, là, comme ça, je crois que c'est être fidèle à la vie en général telle qu'elle est. Elle est dure, la vie. Elle n'est pas correcte. Elle est tout en soubresaut, en retour, en néologisme. Et je crois que l'écriture, issue du verbe, doit être comme ça, parce que le verbe, c'est également la vie. C'est même le créateur de la vie.
Et c'est ce qui, dans le livre Hors les murs, vous permet, dans le fond, d'assommer pas mal de littérature autour de vous. Pas mal d'autres auteurs, sans les nommer.
Ah ben bien sûr, oui. Ah ben là, alors, pour Hors les murs, à propos des noms, j'ai pas eu des problèmes, mais enfin, quand j'ai traversé cette période où je m'occupais d'enfants attardés,
oui.
Inadaptés,
c'est la guerre.
Oui, et toujours sans jamais ouvrir mon journal, mais je me souvenais de tous les noms, de tous leurs noms. Oui, mais je l'exerce aussi quand même. J'apprends chaque jour des choses par cœur, chaque jour. Donc
exprès,
oui, et pas des poèmes, des textes scientifiques, historiques. Religieux, Saint Paul par exemple. Et alors là, dans ce livre, j'avais donné les noms. Pas de tous, ils étaient j'en avais une quinzaine, mais de quelques-uns. Et l'éditeur m'a dit, écoutez, Boris, c'est pas possible. Peut-être que leurs familles sont encore là et tout ça, vous ne pouvez pas montrer dans un livre que telle famille avait un enfant inadapté. Alors j'ai donc enlevé les noms. Voilà. C'était un petit problème, moi ça ne m'a rien coûté. Ils ne voulaient pas, bon ben d'accord. C'était pas un problème.
Ces livres autobiographiques m'ont rendu perplexe. Parce que il y a un ressassement, il y a des répétitions, mais on ne s'ennuie jamais. Est-ce que c'est. Moi j'ai senti ça, peut-être c'est ça, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, est-ce que c'est rhapsodique?
Ah oh ben moi je suis d'accord, vous savez, une rhapsodie, et quelle différence entre une rhapsodie et... Ben oui, évidemment, c'est pas une sonate. Mais le fait que ce soit une rhapsodie, ça implique quoi?
Ce qui frappe moins, c'est moins la construction qui frappe qu'une espèce de...
C'est vrai.
Qui vous
oui, d'accord.
Avec des retours, des...
Mais quand vous employez le mot ressassement, il est très juste.
Oui.
Il est très juste, parce que finalement, je passe mon temps à ressasser. C'est vrai. Et ça n'a pas cessé avec le Renaudot, disons, des choses comme ça. Je passe mon temps à ressasser le passé, le présent, à attendre. À attendre des choses. J'attends toujours quelque chose. Et même j'attends une revanche aussi. Une revanche. Parce que j'estime que je n'ai pas la place à laquelle j'ai droit avec mes livres. L'autre venu, par exemple, hop, ça me dope, parce que je me dis, voilà, quand même, peu à peu, je sors un peu de l'anonymat. Et c'est ça qui est dur pour moi, c'est d'être, disons le mot quand même, méconnu, ou mal connu. plus mal connu que méconnu. Je sais pas.
J'aimerais encore revenir sur la soumission aux parents.
Ah oui.
La différence avec le jeune Rimbaud, lui, c'est le cri de quelqu'un qui a coupé les amarres. Moi, c'est le cri de quelqu'un qui s'étrangle avec ses amarres après les avoir coupées. Ou des phrases terribles, de nouveau, d'une lucidité cruelle. Nous, si mal pourvus en papier officiel, en courage, pourvus uniquement en peur, en lassitude, en abandon à ce que papa et maman vont décider pour nos 19 ans. Dans le fond, dans votre certaine souffrance existentielle et la chose qui maintient aiguisée votre sensibilité, il y a quelque chose en vous finalement d'un enfant qui a jamais réussi à couper un certain cordon. Je le dis brutalement, mais la littérature est faite pour dévoiler.
Oui, mais c'est vrai. J'ai jamais. Même maintenant. Maintenant, je pense, par exemple, quand je fais quelque chose, tiens, qu'est-ce que mon père aurait dit? Ou tiens, qu'est-ce que ma mère, comment ma mère aurait-elle réagi? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont toujours là avec une présence. Et je ne parle pas des nuits où je rêve. Tantôt de mon père, tantôt de ma mère.
Il y a aussi, mais ça je peux le comprendre pour l'avoir vécu, mais j'y réagis différemment après. Évidemment, ce souvenir du dialogue privilégié, de la tendresse avec la mère, du petit garçon avec sa mère, de l'enfant seul avec sa mère, c'est un moment de paradisiaque.
Ouais.
Mais vous n'en sortez pas.
Non. Peu à peu le paradis qui devient enfer, ça c'est dans le tournesol déchiré.
Voilà, alors ça c'est. Alors ce qui est curieux, ayant lu Un silence d'un quart d'heure d'abord.
D'une demi-heure. C'est pris.
Dans l'Apocalypse.
Voilà.
Ayant lu d'abord, j'avais une image des parents. Bon, on les voit, il y a le père qui est quand même tendu, distant, parfois ironique, qui n'aime pas sa belle-sœur. Qui vous spie un petit peu, vous l'avez peut-être mérité, etc. La mère qui est assez drôle, finalement, dans le midi, elle est assez drôle, elle est très Jewish mother, ça, plus en fait pas. Et puis, dans le tournesol déchiré que j'ai lu après, tout d'un coup, ça devient terrible.
Oui.
Ça a résonné avec des souvenirs personnels aussi de ma mère qui est toujours vivante d'ailleurs avec un Alzheimer épouvantable au dernier degré depuis 8 ans. Mais il y a eu des moments, elle devenait justement horriblement hystérique, méchante. J'ai eu très mal en lisant. Ça m'a fait très mal de lire ces pages.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui vous obligeait, qui vous contraignait à cette fidélité presque plus grande qu'à vos femmes, si je veux dire.
Presque plus grande qu'à mes femmes, oui. Ah ben écoutez, tout ça, c'est la même ligne, en quelque sorte. Ma mère et moi et ma mère. Et on pensait quelquefois, ma mère me le disait, pas peut-être très ouvertement, « Ah, voilà !» C'est ton père. Quelquefois, mon père apparaissait comme un gêneur dans nos relations entre ma mère et moi. Comprenez, c'était pas du tout un manque d'amour, mais c'était un simple un constat. Quand j'entendais mon père, je me sauvais de ma chambre pour qu'il ne me trouve pas en train de parler avec ma mère. Il était un peu jaloux, si vous voulez. Et d'une manière complètement inattendue. Quand mon père a disparu, tout s'est écroulé entre ma mère et moi. Et ça, c'était la dernière chose à laquelle on pouvait s'attendre. C'est incroyable. Comment je l'explique? Du temps de mon père, ma mère s'est toujours sentie avec lui un peu soumise. Évidemment, il tenait très souvent compte de ses conseils. Il était de très bons conseils, quelquefois, ne serait-ce que pendant l'occupation. Nous n'allons pas nous déclarer, ça nous a sauvés. Et puis, d'ailleurs, lui demandait, il voyait un homme d'affaires, un autre, il disait, qu'est-ce que tu en penses, Genetchka, etc. Bon. Malgré tout, elle était quand même soumise très fortement à mon père. Et quand elle s'est trouvée seule, il me semble qu'elle a voulu rattraper toutes les choses qu'elle n'avait pas pu se permettre du temps où mon père était là. Décider, partir, rester, bref, des choses complètement folles. Parce que mon père était quand même un drôle de régulateur. Ouh là là, il empêchait les emballements. Ça, alors, il est. Et on se tenait tranquille. Comme on dit en russe, il y a une expression, plus tranquille que l'eau, plus bas que l'herbe. Ah, en russe, on dit « Ti je vadu, ni je travu ».
Vrai que vous avez chanté en russe chez Anne-Marie Epstein un soir.
Ah bon? Ah ben j'aime bien chanter en russe. Ah bon, ah bon.
Et il était un gêneur entre vous deux, mais d'une certaine manière. Et ça, c'est terrible dans ce récit. Vous étiez un gêneur.
Oui.
Et à un moment donné, vous dites, je suis né entre deux avortements. Non, mais c'est terrifiant.
Je ne me souvenais pas.
C'est terrible, c'est terrible.
Mais ça ne me gêne pas.
Non. Mais ce qui me surprend, c'est que des gens de cette génération, comme votre mère, qui est pratiquement la génération de mon père, aient eu avec leurs enfants, à cette époque-là, cette liberté de ton sur leurs affaires. Jamais mes parents m'ont dit le début du quart, du tiers, d'une chose de ce type-là. Jamais.
Ah oui. Ah ben mon père non plus. Mon père alors était exactement comme vous dites. Il était très pudique.
Ma mère était encore plus.
Ah bon. Mon père, mais ma mère, entre ma mère et moi.
Une autre chose que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est cette évolution entre les trois étapes du récit autobiographique, quatre étapes, entre le récit classique à la première personne, le narrateur qui devient nous, et ensuite qui devient Boris et moi, Boris sans moi, Boris tout seul. À quoi correspond-tu quand vous êtes venu cette réflexion sur le sujet du narrateur ?
J'avais pensé, donc quand l'idée m'est venue, enfin l'idée m'est venue, ça fait un peu, quand j'ai ressenti le besoin de parler de cette période de ma vie, je me suis posé pas mal de questions. Et entre autres, sous quelle forme vais-je l'écrire? J'ai tout de suite senti que la forme classique, je suis né, ceci, cela, cela, ça n'irait pas. Il fallait du relief, quelque chose d'un peu dur et un peu inhabituel, en cherchant une vérité plus profonde, en quelque sorte. Et là, j'ai pensé à ces trois, oui, à ces trois étapes. Boris et moi, Boris sans moi, Boris tout seul. Le moi, c'est ce fond. C'est un petit peu d'aérer, si vous voulez. C'est encore une fois, j'utiliserai le même mot, c'est le noyau. Boris, c'est l'apparence. Alors nous étions en égalité, Boris, le Boris et le moi, tant que l'extérieur n'était pas, si vous voulez, apocalyptique. On était sur un même plan. Boris se mouvait, si j'ose dire, à l'extérieur, dans les lycées, à l'école, vis-à-vis de son personnage. Et le moi, eh bien c'était toutes les pensées secrètes, tout le désir d'écrire, etc., etc. Ça, c'est le Boris et moi. Et puis, quand la guerre est venue, il y a eu comme une discordance entre les deux. Dairy continuait toujours, c'est vrai. Mais le moi, il est parti en quelque sorte. C'était un Boris sans moi. C'était un Boris sans moi, parce que le moi avait besoin de se cacher. Il ne voulait pas être atteint par toutes les choses extérieures qui arrivaient, par les déferlements de l'histoire. Mais c'était une séparation, comme un couple qui se sépare, peut-être momentanément, mais enfin bon. Et c'était un Boris sans moi. Lorsque, mettant à l'organisation toute, le moi était parti. Et là, quand vous parliez tout à l'heure de rédemption, il y a peut-être un petit quelque chose de ça. Le moi a honte de Boris. Donc là, vous n'avez pas tort en utilisant ce mot. Il y a peut-être une légère esquisse de rédemption, enfin, un constat de, j'ose pas dire vraiment de lâcheté, mais enfin, c'est le Boris tout seul. Le moi semble lui dire, bon, ben, tu te débrouilles, le fond de l'être se met de côté. Et c'est uniquement le figurant qui joue ce rôle pour sauver sa peau. Et puis, l'Apocalypse devient vraiment, alors là, présente. Alors là, le moi, ce n'est plus une simple séparation comme ça, l'amiable. Il est comme tué. Il s'engloutit quelque part. Et c'est Boris tout seul qui doit à ce moment-là endosser toute la responsabilité de ses actes. Et mon Dieu n'a aucun scrupule se transformer du jour au lendemain de type qui travaille à l'organisation d'hôtes, il devient journaliste à Rouge Midi, enfin bref, il renie en quelques moments ce qu'il semblait devoir penser la veille. Or, il ne pensait rien du tout. C'était uniquement, tout ça finalement, c'était plus ou moins en service, comment dire, pour sauver sa peau, d'une part, en étant dans la gueule du loup. Mais quand tout devient vraiment, quand l'Apocalypse atteint en quelque sorte son sommet, le moi, il joue, n'est-ce pas, il joue avec les choses, avec les gens, il fait l'acteur, il fait du théâtre devant les autres, pour briller à n'importe quel prix. On me demandait à droite, j'ai la droite, on me demandait à gauche, tout m'était bon, tout m'était égal. Parce que j'avais toujours cette sensation, j'ai tous les droits. J'ai tous les droits. Je n'ai pas pu les utiliser. J'ai dû me cacher. Il a fallu que je sois humilié un peu comme ça dans les profondeurs. Alors du coup, quand ça sort. Et le moi, à ce moment-là, il est parti. Et c'est Boris tout seul qui agit à ce moment-là. Qui agit dans ce sens de la comédie.
Il y a une chose étonnante dans cette famille Schreiber, c'est finalement le père, il admire quand même passablement les Allemands. Il n'était pas nazi, il est préféré français. Quant au fils, il a pris cette vie par le héros blond nordique. Ça aussi, c'est un aveu.
Oui. Et là, je ne peux pas l'expliquer. Mon père, pour mon père peut-être, c'est son éducation. Il a reçu, si j'ose dire, une éducation judéo-prussienne.
Sa langue maternelle, c'est l'allemand ?
Oui. Le Yiddish. Il ne connaissait pas le Yiddish.
À quel point ? Il est éduqué où ? À Riga, lui ?
Oui.
Mais en allemand ?
En allemand. Après, il a parlé russe très vite, enfin... tout jeune, il a appris le russe, encore étudiant, puisqu'il était étudiant à Moscou.
Était russe, alors.
Pardon ?
Votre mère, elle était russe.
Ah oui, et même converti, puisque ses parents se sont convertis Alors, les gens orthodoxes.
Elle est revenue au judaïsme après, ou bien parce qu'on la voit aller en Israël, etc. Non?
Oui, elle se forçait un peu, elle voulait se. Ça aussi, ça fait partie de son époque un peu folle. Brusquement, elle s'est sentie deux fois juive, 1000 fois juive, alors que elle allait en Israël, elle faisait bon, elle a beaucoup fait là-bas, elle était très honorée, elle voulait être idolâtrée. Elle voulait être idolâtrée. Alors là-bas, en Israël, comme elle apportait beaucoup d'aide financière et autres, ah, alors c'est ça qu'elle voulait. Alors qu'en réalité, elle était beaucoup plus de tempérament profond, orthodoxe que juive. Elle croyait au Christ, puisque c'était drôle que Napoléon ait existé, elle n'y a jamais cru quand elle était au collège. Mais que Dieu existe. Alors ça, il n'y avait aucun doute. Il y avait beaucoup de doutes pour Napoléon, mais aucun doute pour Dieu. Et alors, mais ce judaïsme tardif, ça faisait partie un peu de sa période un peu folle, si
Vous
vous voulez.
avez été baptisé, vous, dans la religion orthodoxe?
Non, juive, moi j'étais à la synagogue et tout, parce que je suis né à Berlin et mes parents étaient tout jeunes à ce moment-là et on m'a baptisé donc exactement selon toute la tradition juive. Il paraît que mon père à ce moment-là, alors mon père, parce qu'ils étaient très désargentés quand ils sont arrivés à Berlin, quand ils avaient fui Moscou et la Révolution, ils sont arrivés à Berlin. Et puis, comme par hasard, avec ma naissance, il a trouvé une superbe situation, là, Hamburg-Amerika-Linie, enfin, bref, tout un mélange. Alors j'ai eu, paraît-il, un baptême somptueux, toute la famille des deux, du côté de mon père, ma mère était là, enfin bref, c'était. Et à l'état civil, on lui a demandé quelle nationalité, parce que mes parents avaient un passeport, tout ça, mais comme j'étais né en Allemagne, est-ce qu'il veut être la maman? Et ma mère a dit non. Elle ne voulait pas que je sois allemand. Elle se méfiait des Allemands. Mais quand même, en même temps, comme cette période-là, donc la période allemande qui a duré disons, de ma naissance, ou un peu avant, de 22 à 30 à peu près, oui, c'était l'époque où ils étaient bien, où ils étaient riches et tout.
Elle se fait même draguer par Rudolf Hess.
Exactement. Elle aimait un petit peu fantasmer, vous savez, elle a dit, c'était Rudolf Hess. Voilà, bon. Et quant à mon père, justement, avec cette éducation qu'elle avait reçue, il aimait. Et en France, il était choqué au début. On donne rendez-vous à 1 heure, à une certaine heure. L'heure n'est pas respectée. Tout ça le mettait hors de lui. Il admirait l'ordre allemand. L'ordre allemand, disons prussien, enfin bref, il admirait ça. Alors, que
Et
voulez-vous?
pour vous, cette admiration, est-ce qu'il n'y a pas un fantasme homosexuel quand même derrière ce blond ou pas? Je ne sais pas, je trouve la question.
Non, non, mais ah, écoutez, moi aussi, j'admirais ce côté. L'ordre, non, l'heure, être à l'heure, ne pas être à l'heure, c'est pas ce côté-là qui me frappait chez les Allemands. C'est un certain aspect physique. Quand j'étais à l'organisation toute, ils étaient là avec leurs bottes, leurs trucs, leurs machins. Ça m'impressionnait, qu'est-ce que vous voulez. Et je me disais, c'est vrai, c'est quand même peut-être une race de vainqueurs. Et comme moi, et avec mes parents, on s'est toujours senti obligé de se cacher. On avait quand même été assez humilié au début en France, à l'étranger, rentrer chez vous et tout ça. Du coup, j'avais une admiration pour les vainqueurs. Comprenez? Une admiration pour celui qui est le plus fort, quel que soit son drapeau.
Et puis votre tâche d'écrivain, c'est pas une analyse de scientifique ou de journaliste, c'est faire parler votre sensibilité.
Ce que j'explique, ce que je ressens, exactement.
Sans jugement de valeur.
Absolument. Absolument. Vous évidemment. Bon, il est vrai qu'on ne savait rien, sauf ma mère qui se doutait. Elle dit, ouh là 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 là, ils doivent. Leur camp, ça doit être terrifiant, les camps de la mort. Bon, moi, j'y pensais même pas, on était avancé, on n'avait aucune idée de ça. Et donc, j'admirais ce que je voyais. Sans pour autant me conduire en petit froussard, j'avais une insolence, mais ma mère me disait, c'est ça qui te sauve, n'est-ce pas, quand je, oui. Je jetais les trucs à la tête des gens, mais quand ça me déplaisait.
Dans le fond, ces livres qui sont le récit de votre vie et celle de vos parents, sont aussi le récit d'un échec littéraire, en tout cas échec public, vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est au moment où vous écrivez sur l'échec littéraire que vous faites des livres aptes à émouvoir un grand public. Dans le fond, comme si, saisissant par la littérature l'échec précédent, vous accédez enfin à cette littérature à laquelle vous rêvez. Où est-ce que c'est faux?
Si, il se trouve que c'est comme ça.
C'est trop compliqué.
Si, il se trouve que c'est comme ça, mais je ne l'ai pas voulu. Moi, je ne savais pas, quand j'écrivais sur ma vie, la vie de mes parents, que les livres allaient être mieux reçus que les livres précédents.
C'est quand même le cas.
Et c'est le cas. Le Renaudot, par exemple, pour Le silence de Véronique de Meilleur, c'était complètement inattendu. Il a vraiment fallu qu'il n'ait personne d'autre sous la main.
Oui.
Ah ben si, parce que regardez, en général, on couronne un petit livre pour que le public l'achète en grand nombre, mais publié par un grand éditeur, NRF, enfin, Gallimard.
Le livre de Georges Bourgeois était assez considérable, Le voyage à l'étranger.
Oui, mais publié par qui?
C'était Grasset.
Ah ben voilà. Alors, ou Grasset, ou Gallimard, ou Le Seuil.
C'était qui? C'était Bourgeois, François Bourgeois?
Non. Ou Albin Michel. Et moi, c'est un gros livre. Ou Cherche-Midi.
Cherche-Midi, voilà.
Un tout petit éditeur. Donc c'était complètement inattendu. Alors, il y a eu comme ça un genre de
miracle. Quelle compétition à l'époque?
Oh. Je ne me souviens plus.
Et ce Renaudot, est-ce que je peux vous demander, par exemple, quel effet ça a, l'effet commercial, pardon?
Eh bien, ça c'est... Bon, ça s'est pas vendu des... Mais quand même, il y a eu à peu près 50 000 exemplaires qui se sont vendus. 50 000, vous l'imaginez, pour moi, qui ne dépassait jamais 1000 ou... Oh ben tiens, et comme me disait un critique, 50 000 exemplaires pour un livre qui fait 1200 pages, on peut compter... Oui, on peut compter le double pour un livre d'un format normal. Donc, c'était bien. Mais pour autant, je ne me sens pas ni sacralisé, ni rien. J'étais très content.
Et puis ça n'a pas relancé la vente des autres livres?
Je crois pas. D'abord les autres livres. Mes autres livres. C'était les livres précédents.
Oui.
On ne les trouve plus. On ne les trouve plus.
Sauf les autobiographies.
D'accord.
J'ai trouvé à la part.
Voilà. Oui. Parce que le lait de la nuit et celui d'avant, La traversée du dimanche, ont été pris par le livre de poche. Le fleuve noir a pris La traversée du dimanche. Bon, Le fleuve noir, c'est une émission policière, mais enfin, ils sont intéressés à ce livre. Bon. Donc, mes deux premiers livres, introuvables. Le troisième, chez Calman Lévy, il en est resté un exemplaire. Ensuite,
chez
Belfond. Alors là, carrément, compte d'auteur. C'est-à-dire... Ben oui, moi j'avais pas les moyens.
Et bien Belfond acceptait
ça. Ben et comment acceptait? Il a imposé ça. C'est pas que je lui ai proposé de le payer.
Mais il s'intéressait à ces deux livres.
Écoutez, quand je me suis trouvé en panne d'éditeur après La rencontre des absents, et ça a duré longtemps, ça a duré près de 8 ans. Regardez les dates. Croyez-moi, c'était pas des périodes drôles à traverser. Se sentir méconnu, méprisé, rejeté, pendant des années et des années, et d'une manière injuste, parce que tous les livres qui sortaient, c'était pratiquement, à part quelques-uns, inexistants, et moi, là, toujours à la porte. Alors, un jour, Alain Bosquet, c'était un critique de poésie, et même un peu de tout. Il me dit, écoute Boris, il me dit, écoute Boris, on peut essayer, parce qu'il bon, il a quand même essayé de chez Pierre Belfond. Alors Pierre Belfond, on déjeune avec lui, tous les trois, et il m'annonce qu'il avait énormément admiré mon deuxième roman à l'époque où il faisait son service militaire en Algérie. Il était tombé par hasard sur Les heures qui restent. Ah, c'était formidable. Bon. Et après, il dit froidement qu'il va me publier avec plaisir, et avec argent. Avec plaisir et avec argent. Alors, mon père, qui déjà trouvait que, bon, j'étais pas son bras droit en affaire, d'accord, j'étais écrivain. Mais au moins, écrivain, que ça marche. Hein? Un écrivain, bon, comme Troyat, comme Sartre, comme d'autres. Non, non seulement ça marchait pas, mais il était encore obligé de débourser pour que je sois publié. Et je me sentais humilié. Enfin, valait mieux ça quand même que rien du tout. Alors, les deux livres suivants ont donc été publiés par Belfond à compte d'auteur. Et tout ce qui ne s'est pas vendu, eh bien, il les a fourrés dans une fourgonnette qu'il a amenée chez mes parents rue Monceau. Imaginez dans quel état était mon père. Oui. Dans quel état était mon père. Et ces livres-là sont toujours dans ma cave ici. Et alors après, grâce à Max Paul Fouché, j'ai été pris chez Grasset, parce que lui était publié par Grasset. Bon, alors là, c'était pas mal. Yves Berger a été très gentil avec moi. Et les deux livres publiés chez Grasset, ça a été Le Cratère et Les Souterrains du Soleil.
Et ça s'est rendu à...
À rien du tout. Il va. Pas de critique. Alors un jour, je me plaignais amèrement à Yves Berger, il dit, écoute Boris, parce qu'il est du midi, lui. Ah oui. Il a un accent terrible, il dit, écoute Boris, tu n'as pas eu de critique, mais tout au moins, tu n'en as pas eu de ma base. Mais bien sûr, ils n'ont pas voulu de moi. Et alors, oui, j'avais fait peut-être une bêtise aussi. Quand mon père est mort, ma mère et moi, on a été ses héritiers. Il a laissé... Il avait réussi d'une manière très dure...
Dans le pétrole.
Dans le pétrole,
c'est pas trop... Vous dites dans le pétrole, non, c'est pas...
Dans le pétrole. Ça s'appelle l'Urbaine des Pétroles.
Ça existe encore ?
Non, ça a été vendu à Elf.
Ah, d'accord. J'ai rien à voir avec la PRL.
Non, 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 c'était bien avant. Non, 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 c'était donc dans les années 77. Et... ma mère et moi, on s'est trouvé à la tête d'une fortune. D'ailleurs, si je vis comme je vis là, comme ça maintenant, c'est pas grâce à moi. C'est grâce à ce que mon père a laissé.
On va en parler de ça.
Ah. Et alors, ma mère et moi, on s'est dit... Parce qu'au début, ma mère était bien. Elle n'a pas tout de suite eu cette folie des grandeurs, si vous voulez. Alors on s'est dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Elle me dit, mon bois d'une capote lancier, il faut quelque chose, il faut quelque... Et on a eu une idée. C'est de créer un prix littéraire. Alors, le prix littéraire, comme je crois un peu aussi, j'ai pensé, tiens, il va y avoir 7 membres dans le jury, je vais l'appeler le prix des 7. Et il sera doté chaque année de 7 millions anciens, vous vous rendez compte? Et, soi-disant, pour aider les jeunes écrivains, en réalité, c'était pour m'aider moi-même. Parce que les jeunes écrivains, ça m'était complètement différent. J'avais déjà assez de mal à me débrouiller avec moi. Mais, ça faisait bien dans le tableau. Et moi, je me disais, bon, ben, ça va marcher. En effet, les journaux en ont parlé, tout ça en a parlé.
Qui a lu votre mère?
Un peu les deux. C'est peut-être moi, mais ça a été... On en parlait tout le temps, ma mère, moi, enfin bref, c'est un peu tous les deux. Ben, ça a été un fiasco. D'abord, je me suis fait détester par ceux qui ont trouvé, hein, Il étale son argent, en quelque sorte. Il veut briller à peu de frais, etc., etc. Mais enfin, j'avais constitué un jury qui n'était pas si mal. Il y avait Max-Paul Foucher, Alain Bosquet, Jean d'Ormesson, François Nourricier, Dominique Horry de la NRF, Jacqueline Piatier du Monde, et puis moi. Il a subsisté 3 ans, ce prix. C'est pas grand-chose. 3 ans, avec trois lauréats. Le premier, c'était Henri Thomas. Oui. Ensuite, ça a été Jean-Jacques Brochier, par Piston. Et le troisième, ça a été un poète actuel qui est chez Gallimard, Reda, Jean-Jacques Reda, qui m'a même pas remercié d'ailleurs. Enfin bref. Et puis après, on m'a dit, les bruits sont parvenus, ce prix, c'est pour vous monter vous-même, c'est pas du tout, etc. Alors je n'ai eu marre. Et du jour au lendemain, j'ai téléphoné à chacun des membres du jury en disant, fini, plus de prix. Ils ont été vexés. Des gens comme d'Ormesson, ils se sont estimés, renvoyés comme des laquais. Ils étaient d'un peu raison, je me suis mal pris. C'est vrai. Et je n'ai pas d'habileté dans ce genre de choses. Alors du coup, jamais Nourricier n'a parlé de moi dans aucun de ses articles. Enfin bref, je crois que on en veut toujours. Certainement. Max Papouchet m'en a pas voulu du tout. Il dit, bon, Boris, il faut le prendre comme il est, et puis c'est tout, quoi. Il n'en a pas voulu du tout. Mais enfin, ça a été une expérience un peu bête, mais vous savez, quand on ne sait pas, quand on, brusquement, à la tête d'une telle fortune, on perd un peu la tête, quoi. Bon, mais je me suis vite. Après, du coup, alors, tout a été mis à plat. Et puis, ça a été terminé. Alors là, quand j'ai vu tout ça, là, je me suis retiré carrément, si j'ose dire, de ma tour d'ivoire. Alors, ensuite, alors, avec ma mère, donc ça n'a plus du tout marché. Elle est morte en 84. Alors oui, alors, Grasset n'a plus voulu de moi à partir du jour où le prix des 7, je l'ai supprimé, parce que ce prix des 7 leur servait. Ils disaient à leurs auteurs, vous n'aurez pas le Goncourt, mais vous aurez peut-être le prix des 7, qui était moins connu que le Goncourt, mais intéressant d'un point de vue quand même, 70 000 francs, c'était pas rien. Alors donc, eux, ils m'ont mis à la porte quand j'ai supprimé le prix des 7. Et je suis de nouveau trouvé sans éditeur. De nouveau à faire le porte-à-porte. Et c'est Dominique Horry, je ne sais pas si vous avez entendu, qui m'a aidé très fortement. Et comme elle connaissait Pauvert, que c'était son éditeur à elle, Pauvert a publié le roman suivant, Jean-Jacques Pauvert. Il a été très gentil, très vraiment. Mais le pauvre, lui aussi, a été coincé ensuite, puisqu'il était. Comment vous dites?
Dominique Orizet,
AURY, oui. Et Pauvert, le pauvre, il a été coincé avec les éditions. J'ai oublié comment. Qui publiait des trucs classiques, là, j'ai oublié le nom. Bref, ils ont été en faillite. Lui, impliqué, très. Il a disparu. Il n'a pas pu tenir le coup. Alors, de nouveau, j'étais sans éditeur. De nouveau. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle maison d'édition qui était apparue, l'UNOASCO. Aucun des deux n'était éditeur, ils étaient dans la publicité cinématographique, et l'un des deux, ASCO, était en plus directeur de théâtre, propriétaire de théâtre. Il est actuellement propriétaire du théâtre Héberto. Et j'avais à ce moment-là terminé un roman, un gros roman, La descente au berceau, que Bosquet, toujours lui, leur a présenté. Et ils ont été, surtout Michel Luneau, il a été assez emballé. Et j'ai donc trouvé, sans trop de difficultés, après avoir perdu en quelque sorte Jean-Jacques Prouvaire, sans trop de mal et sans attendre des années, peut-être un an et demi après, j'ai eu comme éditeur l'UNOASCO. Ils ont été quand même gentils avec moi. Ils ont publié, et ils ont publié les deux livres suivants, c'est-à-dire La descente au berceau et La traversée du dimanche. Oui, le prix Sainte-Beuve, qui est connu quand même, mais qui ne fait pas vendre. Et le jour même où je recevais le prix Sainte-Beuve, il y a eu un petit cocktail dans un café. Michel Luneau me dit, Boris, alors autant que je te prévienne tout de suite, la maison va fermer. On n'a plus envie de continuer à être éditeur. Oh là là. Alors de nouveau, j'étais coincé. Après l'UNOASCO, je suis de nouveau sans éditeur. Et j'avais terminé Le lait de la nuit. J'avais, enfin, rencontré quelqu'un, une femme. Elle me dit, Boris, je vais vous aider, je vais vous aider. Bon. Alors, très gentiment, elle invite à dîner chez elle une des directrices littéraires d'Alba Michel, là, qui est juste en bas. Et puis elle invite avec. Et elle me dit, tenez, vous allez lui passer le manuscrit. Alors j'ai passé le manuscrit à cette femme, qui me dit, oh non, 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 pour Le lait de la nuit. Non, non, non. D'abord, elle me dit, la biographie d'un inconnu, ça n'intéresse personne. Ça m'a fait plaisir. Ah, j'étais de nouveau coincé. Et là, le hasard. Un soir, je sors dîner avec un ami, un tout jeune, Manuel Carcassonne, qui est actuellement un des responsables de chez Grasset. Et nous allons dîner, vous connaissez peut-être ce restaurant, chez Benoît. Ah, connaissez pas Benoît ?
Benoît.
Oui. Ah, il faudra qu'on aille dîner un soir. On était assis tous les deux, et la table voisine, c'était 5-6 à la table. Et une femme très belle, à côté de moi, qui faisait partie de cette table, et qui me dit brusquement, comme ça, d'un coup, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Oh ben moi, j'étais assez saisi. Et elle me dit, c'est le monsieur en face, là, mon ami américain, qui m'a demandé de vous poser cette question. Alors je dis...
Vous aviez l'habitude du succès auprès des femmes à vous lire.
Oui, mais enfin... Bon, alors je dis, je suis écrivain. Tiens, et moi je suis éditrice. Bon, je n'ai pas cru mes oreilles. Et mon mari est là, à côté de moi. Et c'était Jean-François Bourin. Et il y avait avec eux l'écrivain américain Heller, Joseph Heller, traduit chez Grasset. Et en face d'eux, l'Américain, un avocat international, dont j'ai jamais entendu parler, Cohn, millionnaire ou même milliardaire, ayant une immense propriété aux États-Unis, un superbe appartement à côté là, à Montparnasse. Et c'est lui qui s'était intéressé. Alors on parle, et Jean-François Bourin, tout jeune, beau, donc cet éditeur, c'est le fils de Jean Bourin qui est membre du Renaudot. Et il me dit, ah, vous êtes Boris Schreiber, votre nom ne m'est pas inconnu, parce que on a beaucoup parlé de votre traversée du dimanche. Alors je lui dis que, bon, j'ai mon roman qui est là, en plan. Alors on dîne. Il me dit, alors bon, on a fait un dîner avec lui, il me dit, envoyez-moi ce manuscrit. Alors je lui ai envoyé le manuscrit du lait de la nuit. J'ai attendu le nombre de jours qu'il m'avait dit. Et je me souviens, avec ma femme, on allait à Courchevel à ce moment-là. Et de Courchevel, un peu tremblant, je lui téléphone. Et il me dit, superbe le texte que vous m'avez remis. Hein? Oh, c'était superbe d'entendre ça. Et bien sûr, il le publiait. Et il m'a publié. Il a donc publié Le lait de la nuit. Et pour la première fois, ça a été pris en folio.
Avant
Renaudot. Et pour une fois, une seule fois, j'ai été interviewé par Pivot à la télévision. C'était l'unique fois.
Dans Apostrophe.
Depuis, il ne m'a jamais appelé, même pas après mon Renaudot. Et alors, c'était quand même très agréable. Ensuite, il a publié le roman qui a suivi, c'est-à-dire Le tournesol déchiré. Puis ses affaires ont commencé à aller un peu mal.
Il a eu des problèmes
au point que il a dû fermer sa maison. Et c'est bête parce qu'un jeune éditeur plein de dons, et alors ayant fermé sa maison, il est entré comme directeur littéraire chez Flammarion.
Voilà.
Et moi, j'étais en train d'écrire Le silence. Il le savait. Il me demandait où c'en était. Alors je lui ai dit, écoutez, François, je suis inquiet. Tant que c'était vous, le patron absolu, ça. Mais maintenant, il dit, non, Boris, n'ayez pas peur, c'est quand même moi qui décide et tout ça. Et je suis venu le voir avec le manuscrit Le silence. Chez Flammarion. Et là, il me dit un peu embarrassé, que M. Flammarion lui-même, quand il a vu la grosseur du livre, il a dit oui éventuellement, mais elle aurait allé sur 4 années en quatre volumes. Oh, je dis, il n'a même pas question. C'est hors de question. Ça va perdre tout son... Tout le côté... Ah non.
Tant pis que ça se lit très...
Mais oui, comme ça. Et j'ai repris mon manuscrit. En me disant, avec un manuscrit pareil... Et en réalité, c'était 4 gros un volume pour faire ça. Mais j'avais fait entre-temps la connaissance d'un critique littéraire du Monde, Pierre Bracheline, qui avait beaucoup aimé La traversée du dimanche, qui était venu me voir, et qui entre-temps était devenu directeur littéraire au Cherche Midi, aux éditions du Cherche Midi. Et je lui ai dit, écoutez Pierre, voilà, est-ce que vous me prendrez ça? Or, il est directeur littéraire, mais il ne peut pas décider tout seul. C'est les deux patrons qui décident, en même temps que lui, d'accord, mais enfin, Philippe Araclès et le poète Jean Orizet. Ils ont accepté tout de suite. Ils ont accepté, sans la moindre discussion, sans vraiment, ils avaient du mérite, hein, parce que c'est quand même un éditeur qui n'existe pas depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années, et qui est encore un petit peu, maintenant moins, mais en fait, il était un peu fragile. Et sans hésiter, ils ont accepté de publier cet énorme pavé. Eh bien, ils ont été récompensés. Il y a eu le prix Renaudot. Comme on dit également en russe, le risque est quelquefois une affaire bienfaisante. Eh bien, oui, ils ont pris le risque, et ça a marché. Alors depuis, c'est mon éditeur. Et alors, c'est curieux. Oui, tout ça chez eux. Tout a été chez eux. Et alors, c'est drôle parce que ensuite, j'ai été interviewé par Poivre d'Arvor. Et après l'émission, dans le studio, mais les sunlights, tout ça était éteint, les projecteurs étaient éteints, il me dit, et malgré votre Renaudot, vous restez au Cherche Midi? Ben, je dis, ben tiens, c'est grâce que je l'ai... Oui, après tout, c'est vrai. Mais vous voyez, normalement, quand quelqu'un a quelque chose avec quelqu'un, avec un petit éditeur, il se précipite chez les grands. Ah, pas moi. Moi, je suis... Oui, moi, je suis fidèle. Ça, il n'y a rien à faire. Tant qu'on veut de moi au Cherche Midi, je reste au Cherche Midi.
Et hors les murs aussi, c'était au Cherche Midi.
Hors les murs, tout. Hors les murs au Cherche Midi. L'excavatrice au Cherche Midi. Et j'espère, celui que j'ai en chantier en ce moment, que j'ai pris, ben, il sera également, je me dis, un roman. Oui.
Vous parlez d'excavatrice. Quel est l'élément qui vous a stimulé à ce défi?
C'est vrai que c'est un défi. Comment dire, j'ai voulu peut-être un peu tordre le cou, me moquer au truc, à certains clichés, à certaines postures, aux clichés de la langue, aux postures des écrivains, alors tout ça. Enfin bref, à vrai dire, j'ai même du mal à préciser davantage mes motivations. C'est comme ça, vous savez, chez moi, ça vient par impulsion, un besoin, comme ça, une impulsion. Et je commence à écrire quelles sont les motivations, disons, rationnelles, je ne sais pas.
Il y a un certain vertige d'être pas obligé. Est-ce que ça favorise la littérature ou est-ce que, d'une certaine manière, c'est un piège, ou ça peut être un oreiller de paresse ou un piège. Ma question est un peu brutale,
mais
c'est vrai que votre situation n'est pas fréquente. Autrefois, il y avait M. Proust qui avait de l'argent de famille, M. Flaubert, je crois aussi, mais c'est plus très courant aujourd'hui d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre.
Oui.
Quel est votre rapport à cette situation-là?
Je n'y pense pas. Bon, il y a cette phrase de saint Paul, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc, j'ai une discipline de fer, chaque jour, une discipline de fer. Dès le matin, bon, le petit déjeuner, d'accord, et après, j'apprends mes choses par cœur. Pour la mémoire. Et en plus, j'ai besoin de savoir. J'aime savoir. Alors, je lis les choses aussi bien sur la relativité, sur la biologie, surtout... Surtout sur la biologie végétale. Parce que c'est très frappant. Il y a des choses très frappantes. Et puis... mettons Saint-Paul. J'apprends ces choses par cœur, et en plus en espagnol, alors que je ne parle pas l'espagnol. Parce que j'aime les consonances, et je trouve que ces consonances rauques conviennent à la rossité de ces anathèmes et de ces trucs. Ça me frappe. Bon. Ça, c'est... Ensuite, je viens ici dans le bureau. J'écris mon journal. D'abord.
Tous les jours.
Et depuis à peu près 20-25 ans, je l'écris avec la main gauche et non plus avec la main droite. Et ensuite, c'est mon travail que j'appelle nucléaire, c'est-à-dire le bouquin lui-même, mon chantier. Ça me prend à peu près chaque jour, je suis incapable de faire plus, 2 heures. Pour mon travail, archi-moi, si vous voulez. Je ne peux pas travailler plus de 2 heures. Ensuite, c'est la culture physique sérieuse. Alors, à Paris, comme
il y a, il y a un gymnase club en bas.
Ah oui, non, tous les trucs collectifs, moi, c'est...
c'est ça que ça existe.
Non. J'ai mes propres poids de 3 kilos dans la pièce et tout.
C'est un anarchiste. Russe.
Russe, en plus, vous rendez compte, hein. Oui. Ensuite, alors je marche 1 heure au minimum chaque jour. Et puis, bon, ben, le soir, alors je me laisse un peu aller. Alors, et également, alors, tous les bouquins, là, de l'après-midi. Et le soir, quand même, alors là, je regarde la télévision. J'adore aller au cinéma les samedis. Enfin, bref, mais que les samedis, jamais en semaine. Parce que j'ai pas le temps, je travaille. Ça. Et je crois que c'est cette discipline. Alors, comme vous dites, mon argent, je m'en rends pas compte. Je vis selon la discipline que je me suis fixée, avec l'emploi du temps strict. Alors je me rends compte, si vous voulez, que j'ai de l'argent. Lorsqu'on voyage, par exemple, alors on ne descend pas dans les bouis, c'est certain. Je n'ai pas non plus n'importe quelle voiture, disons, je roule. Ma femme a sa petite voiture pour Paris, moi, quand on se déplace plus loin, ben, j'ai une Mercedes. Enfin voilà, là-dedans. Comment ça se présente?
Ça, c'est la vie privée.
C'est la vie privée, oui. Mais voilà. Non, mais alors je ne me rends pas. D'ailleurs, ma mère était étonnée parce que après le décès de mon père, elle me disait quelquefois, c'était encore quand ça marchait encore à peu près bien entre nous. Mais enfin, tu ne te rends pas compte que tu as de l'argent, l'argent que tu as. Je dis, ben non. Non, ça n'a pas changé ma vie fondamentalement, puisque mon père, qui avait besoin d'un associé d'après les lois, étant donné l'extension de son affaire, il n'avait confiance qu'en moi. Bon. Donc j'avais la signature. Mais il me payait pour ça, sans que j'aie allé au bureau, sauf une fois tous les 6 mois pour signer. Donc, mon genre de vie, j'étais déjà libre entièrement de mon temps avant d'hériter de cette fortune. Donc ça ne m'a jamais gêné. Ce qui me gênait, c'est quand j'étais obligé de travailler. Alors là, oui. J'arrivais toujours en retard dans mes différents trucs. Enfin bref, ça. Mais après, si vous voulez, j'ai toujours pris ça comme une chose normale.
J'ai encore 2-3 autres questions. Je peux continuer?
Mais bien sûr, tant que vous voulez.
J'aimerais reparler de l'aspect littéraire des deux petits livres, enfin petits plus minces livres autobiographiques, Le lait de la nuit, le tournesol déchiré.
Oui.
Là aussi, la manière d'agencer le temps. Le lait de la nuit, c'est un va-et-vient dans le temps.
Oui.
C'est un va-et-vient que j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser à certaines choses qu'écrivait Max Frisch, que j'aime beaucoup. Le tournesol déchiré. Il y a plusieurs plans de lecture. Il y a l'enfance un peu plus tard à Paris. Il y a la reconstitution de la jeunesse de la mère. Et puis, il y a les terribles après-midi de la rue Monceau. Alors, c'est cette construction littéraire, comment elle vous est venue?
Pour le lait de la nuit, ça m'a paru tout simple. Partir de mon présent d'écrivain, et d'écrivain plutôt rejeté, et avec, bon, les plaintes, les ressassements déjà, et toutes ces choses, qui alternent avec ce qui me tenait tellement à cœur, notre passé si dur, de mes parents et de moi, mais moi j'étais quand même protégé par eux. Lorsque mon père a perdu son travail chez les Russes, les Soviétiques, et que donc on s'est trouvé à la rue, avec la soupe populaire.
Alors, on sent qu'une fois que la richesse est revenue, on s'y accroche, parce que c'est vraiment...
Ah oui, ça c'était...
C'est humiliant. Moi donc, comme votre père,
humiliant. Oh là là. D'ailleurs, mon père n'aimait pas, je le dis, dans les gens qui ne réussissent pas. Pour le tournesol, je n'ai fait que reprendre la suite chronologique, c'est-à-dire...
Mais la structure n'est pas la même.
Alors, au point de vue du temps, au point de vue de la chronologie simple, si vous voulez, c'est la suite d'envers. Comme nous sommes arrivés à Paris, à l'hôtel des sports, tous les trois, etc. Donc, c'est de nouveau une alternance entre ce passé de notre arrivée à Paris et violemment projeté à l'opposé entre ma mère et moi, après la mort de mon père.
Plus le récit, à travers le récit de sa jeunesse.
À travers le récit de sa jeunesse. À travers les essais qu'elle fait d'écrire, comme moi aussi, dans un français brisé. Et puis à travers une technique un peu à part, puisque j'utilise le « il » pluriel pour parler de moi.
Oui. Justement, c'est déjà la première, pourquoi déjà? C'est ça prélude au Boris et moi, ça, non?
Je n'y ai pas pensé au moment où j'ai utilisé, non. Bien sûr. Mais je voulais montrer l'éparpillement. Voilà. L'éparpillement, le morcellement d'un enfant soumis à toutes ces tensions qui allaient en sens contraire. En entre ma mère et moi, c'était des tensions. Alors, dès l'enfance, dans ce grand champ de coquelicots à Riga, quand ma mère me dit « Oh, mais j'ai plusieurs petits borinquas, quand je regarde dans tes yeux, il y a tant d'éclats, et il n'y en a pas qu'un, j'en ai plusieurs. » Donc, je me considérais comme quelqu'un de morcelé. C'était une chose au lycée, à l'école, où on se moquait parce que de moi, parce que j'étais russe, on me disait « fils d'assassin », vous savez, au moment de la mort.
Il s'appelle l'assassin du président.
Gorgoulov. Oui, etc. Et puis chez moi, c'était une autre... Donc, j'étais quelqu'un de d'émietté. Donc, j'utilise le pluriel.
Pourquoi ce perpétuel autodénigrement qui est parallèle à une exaltation du moi, finalement? Vous êtes quand même un peu masochiste.
Oui, c'est vrai. Parce que, en un sens, les promesses ne se sont pas réalisées. Bon, les promesses, par exemple... comme ma mère m'en parlait, d'une renommée extraordinaire, et tout, et tout. Alors, dans la mesure où je suis encore rejeté, méconnu, contourné, jamais on ne m'interviewe à la télévision, par exemple, des trucs comme ça. Alors, je sens que je suis quelqu'un de rejeté et en un sens j'ai envie d'aller encore plus loin qu'eux, vous comprenez? Ah, on me rejette, eh bien moi je suis encore, ben tant mieux qu'on me rejette. C'est ça, c'est un masochisme de vengeance. Ça les laisse complètement froid, mais moi ça me soulage.
C'est le ton général de hors les murs, un peu.
Oui.
Qui est drôle, d'ailleurs. Il y a une chose aussi, c'est que c'est finalement une tragédie du XXe siècle, tout ça, parce que c'est entre la Tchéka et la Gestapo.
Ah. On a échappé aux deux, remarquez. Et à la Tchéka et à la Gestapo. Encore que, oui, enfin, moi, c'était la limite. Hein. Le jour où j'ai frappé un sous-officier allemand à l'arsenal de Toulon, il fallait le faire, ça, quand même.
C'était un sous-officier.
Un sous-officier, oui, ah oui, oui.
Il était complètement inconscient.
Mais le chef du service de sécurité local est venu me trouver dans ma cellule et me dit, viens, vous entendez, c'est la dernière fois. Si vous recommencez une autre fois, je vous livre à la Gestapo. Est-ce que vous savez ce que ça signifie?
Ça dit.
Quand même. Ouais. Quand même. Mais, bon... Bref, mais c'était déjà la fin de la guerre et je n'ai plus recommencé.
Quand c'est que vous avez appris que les grands-parents, vos grands-parents maternels avaient été massacrés?
Après la guerre, quand mes parents sont allés en Lettonie.
Ils sont allés tout de suite après la guerre?
Pas tout de suite après, mais ils sont allés en Lettonie dès que la situation financière de mon père s'est un peu améliorée. Ouais, ouais. Tout, ils y sont allés. Et là, on leur a dit.
Ils n'ont pas l'air d'aimer beaucoup les Lettons.
Oh là là. Oh là 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 là. Oui, mais c'est parce que les Lettons ont été archi-hitlériens. Tous.
Antisémites.
D'ailleurs, l'ordre d'Hitler signé au moment où ils arrivaient en Lettonie, épargner Riga, ville amie.
C'est une chose qui est très belle dans le... Le sol déchiré, c'est quand vous dites que vous aimez monter et grimper aux arbres. Ça, c'est un fantasme magnifique. Il y a le baron perché de Calvino.
C'est vrai, j'aimais monter aux arbres. À Saint-Chéron, nous allions dans cette pension de famille, il y avait un grand parc.
Saint-Chéron, je me suis posé la question.
Ah bon, Saint-Chéron, c'est dans le sud de Paris, à 50 km. C'est à côté d'Arpajon.
Ah, c'est ça, oui.
Oui. Ah, j'aimais bien. Je me grimpais là dans ces arbres là et j'étais. Et même à l'hôtel de sport, il y avait un figuier. Je grimpais sur le figuier du jardin.
Il existe encore cet hôtel?
Oui.
Oui?
Oui.
Je vous disais au téléphone que Hors les murs a un aspect de dialogue de théâtre.
Oui, vous me disiez ça.
Vous savez très bien faire des dialogues. Est-ce que ça pourrait être porté à la scène?
Oh, Si quelqu'un s'y intéresse, oui. J'ai écrit hier une pièce de théâtre. J'ai écrit deux pièces. Une qui a été représentée dans un café-théâtre, un peu comme ça, mais enfin, c'était un genre de truc un peu drôle, un peu comme ça. Et une pièce, si j'ose dire, véritable. Pour le moment, j'attends des réponses, mais je ne peux rien dire de plus pour le moment.
Là, vous dites, l'écriture me vaut à la fois tout maculé de vie et tout transparent d'innocence, sinon elle me rejette. J'ai pas bien compris. L'écriture me veut tout à la fois maculé de vie et tout transparent d'innocence, sinon elle me rejette.
C'est-à-dire que je ne peux parler que de moi, jusqu'au bout. Donc, ne parler que de soi, parler de soi, ça implique une certaine innocence. Une innocence d'esprit. Mais maculé de vie, c'est de dire tout ce que j'ai fait de mauvais, de bien peut-être aussi. Ce masochisme même, bref. Toutes ces choses, c'est les conditions de mon écriture. Être celui qui n'a pas peur de parler de lui, de montrer ce qu'il est, maculé, oui, d'accord. Mais en même temps, ça implique une certaine non-culpabilité.
Je n'étais pas d'accord avec le titre que Le Monde avait donné à cette page qu'ils ont fait sur vous, écrivain Narcisse. Je ne vous ressens pas comme Narcisse.
Mais enfin,
Narcisse, il se complaît. Vous, vous vous flagellez quand même.
Oui, oui. Mais j'étais bien content que quand même, Le Monde, c'était bien pour moi.
Oui, c'est une belle page, oui, tout à fait. Tout à fait, mais pas Narcisse.
Non.